France Inter, le 18-20.
En préparant cette émission, je suis tombée sur ce chiffre qui m'a paru assez incroyable. 40% des couples ne discutent jamais de l'état de leurs finances. Comme ça, personne ne sait réellement qui est dans le rouge. Et la faute à qui, surtout de vous à moi? J'imagine que c'est aussi un problème de riches. Néanmoins, on sait également que décidément, l'argent reste un motif de rupture ou de divorce. L'argent peut détruire même un couple. À l'inverse, est-ce qu'il est suffisant pour qu'on reste ensemble? Est-ce qu'il faut se dire combien on gagne, comme quand on se présente ses parents? Est-ce que je dois le ou la prévenir si j'ai été augmentée? Si je découvre qu'il m'a offert un cadeau sur le compte joint, comment je dois le prendre? Et si l'un d'eux exige un contrat de mariage, est-ce qu'on est mal parti ou au contraire? Qui fait les comptes chez vous? Est-ce que quelqu'un fait les comptes? Est-ce que vous avez un compte joint? Est-ce qu'il faut poser des règles claires avant de se mettre ensemble? Décider de qui paye quoi? Faut-il tout couper en deux? Faut-il le faire au doigt mouillé? L'argent, personne n'en parle, mais qu'est-ce qu'on en parle? Peut-on s'aimer sans compter? Eh bien, allons-y.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Audrey, bonsoir, c'est vous la première et soyez la bienvenue, Audrey.
Bonsoir, merci de prendre mon appel pour votre émission que j'écoute tous les soirs en rentrant du travail.
Formidable.
C'est un peu exceptionnel, je suis un peu chez moi avec mes enfants, donc excusez-moi si jamais il y a du bruit.
Allez-y.
Donc voilà, moi je voulais juste intervenir et puis parler de mon exemple. Moi, quand je me suis mise en couple, mon conjoint était absolument hermétique à l'idée d'un conjoint. Il avait l'impression, que quand on aime, on ne compte pas, donc il n'y avait absolument pas besoin d'un conjoint pour répartir les dépenses. Moi, j'ai des parents qui se sont déchirés pour des problèmes d'argent. Donc pour moi, c'était vraiment un préalable à l'entrée dans la vie de couple. Donc on a fini par instaurer ce conjoint qui a pour but de couvrir les dépenses du foyer. Il n'y a pas du tout d'ingérence dans la vie personnelle de l'autre, étant donné qu'on a chacun notre compte personnel et qu'on cotise sur le compte joint au prorata de ce qu'on gagne, sachant que je gagne un peu plus que mon conjoint.
Et bien comme ça c'est clair, et vous l'avez fait voilà. Dès le début, donc visiblement, ou est-ce que dans ces cas-là, c'est plutôt au moment où les enfants arrivent en fait que le partage financier devient un peu particulier et différent?
Non, pour moi c'était vraiment habiter ensemble, dès l'instant qu'on allait habiter ensemble, qu'on allait payer un loyer, des charges, éventuellement des problèmes de, de dégâts des eaux, des impondérables comme ça qui peuvent arriver même avant les enfants. Alors ils se multiplient avec l'arrivée des enfants, donc on a des jumeaux de 2 ans et demi, donc les impondérables, il y en a pas mal. Mais
ils vont par deux. Vous avez de la chance finalement.
Exactement. Et donc, l'idée c'était, moi, mon préalable de l'installation dans la vie de couple ensemble, dans un foyer commun, c'était, ça passait par un compte commun.
Merci beaucoup Audrey, formidable entrée en matière pour pouvoir entamer cette discussion qu'on a ensemble jusqu'à 20h et pour répondre à vos questions, discuter ensemble. Héloïse Boll est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez écrit Les bons comptes font les bons amants, c'est publié au Cherche Midi. Et bonsoir Jeanne Lazarus, vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS. Vous avez écrit notamment avec Damien Deblic, Sociologie de l'argent, c'était publié à La Découverte, ça date de 2007, mais ça existe encore j'imagine. En tout cas, je suis contente de pouvoir le dire. Alors moi je la trouve intéressante Audrey, et Louise Boll et l'une et l'autre, pour commencer, mettre les choses à plat d'emblée en fait, au démarrage. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'assez fréquent finalement, Héloïse Boll, et en tout cas qu'il faut conseiller? Mettons les choses à plat tout de suite, comme ça ce sera fait.
Alors l'impression qu'on a à parler avec des thérapeutes de couple, c'est que c'est pas du tout fréquent, donc c'est quand même très courageux de l'avoir fait. En revanche, c'est probablement la meilleure chose à faire pour que l'argent soit plus vraiment un problème. De mettre le sujet à plat tout de suite d'entrée de jeu, ça permet d'éviter assez vite les malentendus et au fond de laisser s'installer des situations qui se retrouvent, qui sont complètement déséquilibrées et où à la fin, l'un s'y retrouve beaucoup et pas du tout l'autre. Finalement, c'est pratiquement ce qu'il y aurait de mieux à faire, même si on en convient, c'est pas du tout quelque chose d'agréable de s'asseoir sur un coin de table pour dire bon, alors qu'est-ce que je paye, qu'est-ce que tu payes, combien on dépense, qui paye quoi et à quelle hauteur. C'est pas simple à aborder, mais c'est la meilleure solution.
Et c'est marrant parce que vous l'avez évoqué d'emblée, c'est parce qu'on l'entend dans les thérapies de couple. Ça veut dire que dans les thérapies de couple, on commence à parler d'argent, en fait. En général, c'est pour ça qu'on y va et c'est de ça dont on parle tout de suite.
Alors, ce que disent les thérapeutes de couple, c'est que c'est pas toujours le c'est même souvent ce n'est pas le premier motif de consultation, mais finalement le sujet surgit assez vite. Et il y a même des thérapeutes qui vous disent, une fois qu'on pose la question de savoir comment les gens se sont organisés, ils vous disent tous, oh, on s'est organisé comme ça, au fil de l'eau, petit à petit. Et finalement, c'est parce que les couples ne se sont pas organisés que des situations compliquées et déséquilibrées s'installent et qu'il y a, au bout de quelques années, un ressentiment et une situation qui pourrit et qui peut mener à la rupture.
Jeanne Lazarus, on sait qu'on ne parle pas beaucoup d'argent dans ce pays, que c'est toujours un peu compliqué, mais ça veut dire même dans le couple, en fait. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être, est-ce que ça existe des gens qui ne savent pas combien gagne le conjoint et inversement ?
Alors, ça existe peut-être, mais ce qui est intéressant dans le témoignage qui a été celui d'Audrey, c'est que ce qu'elle décrit, c'est qu'on en parle au début. Mm-hmm. Et en fait, quand même si ensuite les choses peuvent s'installer, qu'on se met à ne plus en parler, quand on s'installe ensemble, c'est à ce moment-là qu'on a l'occasion de dire qui va payer la facture, qui va payer les courses. Et on sait qu'il y a des moments vraiment où on est... quasiment forcé de parler d'argent. L'ouverture du compte joint, c'est très souvent l'installation ensemble ou l'achat immobilier qui est aussi le grand moment d'ouverture du compte joint. Donc on a des moments comme ça, on le fait. Ce qui peut poser problème, c'est qu'on le fait au tout début, mais que la situation change. Par exemple, on est étudiant au départ, et puis l'un des deux va avoir une carrière professionnelle meilleur que l'autre, mais on avait dit
les termes
que
de l'accord.
On faisait moitié-moitié. Et là, on ne revoit pas les termes de l'accord. Et c'est justement ça qui fait que quand 20 ans après...
Vous préconisez qu'on se revoie tous les combien de temps ? Tous les 2 ans ? Tous les 4 ans ?
En réalité, justement, il faudrait pouvoir discuter. Et en même temps, on peut aussi voir dans ce témoignage qu'une fois qu'on a trouvé une solution, chaque couple trouve sa solution et trouve un moyen de ne pas avoir à en parler et qui n'y ait à peu près pas de problème. Et puis on en reparle, parfois en se disant on aurait dû en parler il y a 5 ans parce qu'on se rend compte qu'il y a eu un déséquilibre qui s'est installé, mais on en reparle quand un problème va surgir. Mais ce que la plupart des couples essaient de faire, c'est d'en parler le moins possible parce que effectivement c'est pas un sujet extrêmement romantique, c'est potentiellement aussi un sujet de conflit parce que c'est... Quand on parle d'argent, on comptabilise, or précisément la relation amoureuse.
C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire dans une relation amoureuse, évidemment.
Et donc, il y a vraiment une dichotomie complète entre ce qu'on pense être et la façon dont on fantasme la relation amoureuse fusionnelle, épanouissante, et la façon dont on voit les questions comptables et on ne peut pas considérer que l'un et l'autre vont aller ensemble.
Il y a beaucoup de monde au 01 45 24 7000, prof, que ça vous parle les uns les autres. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
On vous écoute Anne.
Oui, je disais que moi, bonsoir, et je vous remercie pour vos émissions. Pour moi, l'argent a pourri mon couple. Au début, tout nouveau, tout beau, on fait un compte joint. C'est mon compte qui sert de compte joint.
Ah, donc c'est pas vraiment un compte joint, du coup?
Si, c'était un compte joint. On a transformé mon compte, mon compte chèque en compte joint, et alimenté par mon salaire. Nous gagnons tous les deux un bon salaire. On n'a jamais, on n'a pas eu de problème financier. Et très, très vite, mon mari s'est mis à me houspiller dès que je dépensais de l'argent. Ça allait du moindre objet jusqu'aux choses plus essentielles comme les vêtements pour les enfants ou la nécessité de s'habiller pour aller au travail. Et donc ça a été très difficile et ça m'a poussée dans une attitude régressive. Je mentais sur les prix, je ne disais jamais le vrai prix de ce que j'achetais. Quand je pouvais acheter en cachette, j'achetais en cachette, ce qui est quand même incroyable. Alors que
quand on est adulte, vous voulez dire
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est hallucinant, quoi. Et en plus de ça, aujourd'hui, moi, je ne peux plus supporter qu'on m'offre un cadeau.
Ah bon?
Parce que pour moi, on m'attache. Ah oui, parce que quand on a divorcé, on m'a rappelé les cadeaux faits, mais au tout début du mariage. J'ai pas été remboursée de certains frais au motif que ah oui mais tu te rappelles quand on s'est marié tu avais un petit prêt donc
ouais on n'entend pas toujours des jolies choses dans ces cas-là mais je voudrais bien comprendre Anne votre compte a servi de compte joint mais votre mari avait toujours son compte lui
oui
mais donc il y avait une sorte de déséquilibre dans cette affaire quand même
une fois qu'on avait épuisé mon compte on allait puiser dans l'autre
c'est pas juste Anne
non voilà
c'est pas juste
c'était comme ça.
Merci beaucoup. Comme ça que ça se passait. Merci pour votre témoignage, Anne. Incroyable, Héloïse Bollin. Quel déséquilibre, en fait, au démarrage dans la relation à l'argent entre Anne et son ex-mari.
C'est une organisation qui semble un petit peu compliquée, en effet, et absolument injuste en réalité, parce que Jeanne l'a dit tout à l'heure, dans un couple, il y a en tout cas une règle du code civil qui est valable à la fois pour le PACS et pour le mariage. On est censé contribuer chacun à la hauteur de ses revenus. Si on attend d'abord d'avoir épuisé tout le salaire de madame avant que
commencer
monsieur
à taper
se mette
dans celui de monsieur
à participer, c'est quand même un peu compliqué et c'est pas très conforme à ce que devrait être la dépense de la famille. Malheureusement, quand on laisse s'installer ce genre de situation, finalement, on finit par trouver ça presque normal. Et
ça l'est pas, c'est le mot qu'on puisse dire. C'est comme ça qu'un couple explose, vraisemblablement.
Un peu désastreuse, ouais.
Jeanne Lazarus, moi, ce qui m'amuse aussi, et qu'on comprend très bien dans le témoignage de Anne, c'est je finis par cacher des choses, en fait, par pas dire le prix des choses, ça donne une drôle de relation de couple quand même quand on en arrive à cette dimension-là.
Oui, et ça me faisait penser, en fait, à ce qu'on pouvait lire au 19e siècle de femmes qui devaient, parce qu'elles ne gagnaient pas d'argent par elles-mêmes, qui devaient sans cesse demander à leur mari pour la moindre dépense. Et un des premiers combats dans les journaux féminins qu'on trouve à la fin du 19e, c'était les femmes qui demandaient à leur mari d'avoir une allocation mensuelle pour ne pas avoir à chaque dépense à se justifier. Et c'est toute l'histoire aussi des relations de couple au 20e siècle, c'est que les femmes se sont mises à travailler, ont eu leur propre argent et donc revendiquaient de ne pas avoir de compte à rendre sur leurs dépenses. Et on est aujourd'hui complètement heurté à l'idée qu'on devrait, quand on est une femme, mais quand on est un homme aussi d'ailleurs, devoir dire à l'autre « je dépense pour ci, je dépense pour ça et j'ai bien raison ». Mais ce qu'on voit beaucoup dans les relations de couple, c'est qu'il y a souvent des rapports de force. Alors le plus souvent, c'est celui qui gagne le plus d'argent qui est en mesure d'imposer le rapport de force et c'est souvent l'homme qui vont faire que...
Toujours.
Pas toujours, non, il y a à peu près 25% des couples où la femme gagne plus que le mari.
C'était ma question, oui. 25%, c'est pas beaucoup encore.
Non, mais ça s'améliore, disons. Mais oui, ça reste le plus souvent les hommes qui ont le meilleur revenu et qui, dès lors, s'autorisent à être plus... à prendre plus de décisions. En revanche, les femmes sont souvent plus dans les dépenses quotidiennes et justement ont une certaine marge de manœuvre parce qu'elles ne rendent pas des comptes. Mais quand on se met, et souvent c'est ce qu'on voit avec l'argent, c'est-à-dire que l'argent est un vecteur de plein d'autres choses que de l'argent lui-même. Donc quand on se met à surveiller les dépenses de l'autre, c'est aussi une surveillance de son intimité, de
pourquoi t'as acheté ça, t'as pas besoin de ça, pourquoi faire, etc.
Et c'est bien de ça qu'il s'agit, plus que de questions d'argent souvent.
Est-ce qu'il y en a toujours un sur les deux? Est-ce qu'il y a un majoritaire, si je puis dire, je sais pas comment appeler ça, qui de toute façon est celui ou celle qui fait les comptes? En fait, est-ce qu'il y a le comptable du couple? Ça se passe pas à deux sur la table de la cuisine, cette affaire en général, si? Héloïse Boll, peut-être?
Alors, c'est pas aussi marqué que ça, mais il y a énormément de couples encore qui sont, je crois que c'est autour d'entre 15 et 20% où, les grosses décisions financières se prennent exclusivement par l'un ou par l'autre. Le plus souvent les hommes,
toujours.
Mais certaines fois les femmes. Et donc ça veut dire que dans 80% des couples, à peu près, vous avez des situations et des comptes qui sont passés régulièrement au crible et les grandes décisions financières se prennent à deux en concertation qui peut paraître à peu près logique, et puis une petite proportion de couples où non, on considère que l'un est plus spécialiste que l'autre ou que c'est à lui de décider, et ça se passe comme ça. C'est très regrettable, et un des conseils que je donne dans ce livre et qui m'a été soufflé par pas mal de spécialistes, c'est quand même de s'intéresser à la question à deux. Il n'y a pas de gêne de la fiscalité, il n'y a pas de gêne de la finance ou du crédit immobilier, tout le monde peut comprendre. Donc la moindre des choses quand on se penche sur des sujets aussi importants que cela, c'est de s'y pencher à deux et de savoir ce qui se passe dans les finances de son couple.
Mais d'ailleurs, on est obligé de le savoir à un moment, non ? Parce qu'il y a une déclaration d'impôt à faire, lorsqu'en tout cas on est marié ou paxé. Donc à un moment, on sait quand même ce qui se passe sur la feuille de paye de l'autre, non ?
En théorie, on sait. Mais les avocats vous disent que vous avez à peu près un couple sur cinq ou une personne sur cinq qui se présente dans le bureau de l'avocat sans pouvoir dire combien gagne son conjoint. C'est quand même un peu problématique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui signent en bas du papier sans avoir lu la déclaration.
Jeanne Lazarus, est-ce qu'on est dans l'un des derniers bastions machistes aussi quand on tourne autour de l'argent ? Parce que je vous écoute toutes les deux depuis tout à l'heure. Il n'y a que 25% des femmes qui gagnent plus que leur mari. 25, c'est déjà monte, comme vous dites, mais enfin, ça reste que 25. C'est souvent le mari qui fait les comptes, nous dit Héloïse Boll. On est un peu dans le dernier bastion ou pas ?
L'un des derniers bastions, heureux, dans un encore bastion. Mais il en est un comme le reste de l'organisation sociale, puisque précisément l'organisation du travail va avoir
encore puissant bastion plutôt, disons ça comme ça.
Oui, et alors en même temps, ce qu'on voit sur qui fait les comptes, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi depuis, qui est très ancien, c'est que plus il y a d'argent et plus les hommes sont investis dans les questions financières. Mmh. Dans le monde ouvrier du début du XXe siècle, c'était la femme qui récupérait la paye de son mari, des enfants qui travaillaient et qui essayait avec les maigres revenus de faire bouillir la marmite. Donc c'était sur la femme que reposait la gestion de l'argent. Et en fait, aujourd'hui encore, on voit que toute cette gestion quotidienne d'essayer de raccrocher des choses et de faire tenir les dépenses dans les ressources, c'est plus les femmes qui le font quand on est dans des situations où il y a peu d'argent. En revanche, quand on entre dans les enjeux de patrimoine de transfert d'argent important, là, les hommes sont bien plus présents. On sait par exemple que les transferts d'entreprises vont plus souvent au fils qu'aux filles, que quand les parents font des partages, par plein de façons, les fils sont plus investis que les filles. La plupart du temps, évidemment, on peut trouver des exemples inverses. Mais on retrouve en fait les équilibres qu'on retrouve beaucoup aussi dans le monde professionnel, c'est-à-dire le quotidien, le secrétariat, disons, est laissé aux femmes, et puis les décisions importantes.
Oui, ce qu'on retrouve aussi dans les tâches ménagères, par exemple, c'est pour ça que je faisais le parallèle. On est dans les mêmes schémas que sur tout ce qui touche au quotidien, à la maison, donc les tâches ménagères, donc le foyer, etc., etc. Non, Héloïse Boll, c'est assez intéressant.
Dans certains couples, c'est ça. Il y en a un des deux qui délègue complètement, et c'est désastreux en réalité.
Allez, ça n'existe pas partout, heureusement. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
On vous écoute Cécile.
Eh bien typiquement, nous on ne délègue pas à l'autre, pas plus qu'on délègue des tâches ménagères ou autre chose. On s'est connus après une première vie, donc on a gardé chacun nos comptes. Et au-delà d'une question de couple, moi j'ai l'impression que c'est surtout une question du rapport que chacun a à l'argent. Mon mari est très économe, moi je suis plutôt dépensière, j'avais pas envie d'un truc, alors je suis une femme indépendante, hein, je travaille, je gagne ma vie, donc j'avais pas effectivement envie de ce que vous décrivez sur le compte commun, le partage. Comme je savais qu'on n'avait pas le même rapport à l'argent, je voulais pas entrer dans quelque chose qui pouvait être source de conflit. Et puis surtout, travaillant tous les deux dans le privé, nos situations ont extrêmement varié. Il y a une époque où je gagnais plus que mon mari, qui s'est mis à temps partiel pour élever son enfant. Et ensuite, moi, je me suis mise à mon compte. Donc là, évidemment, ça a dégringolé. Je suis plus salariée, donc c'est lui qui a pris le relais. Et au bout du bout, l'argent, c'est comme les tâches ménagères, en fait. C'est celui qui a le temps qui fait, et puis on se partage. Et puis, il n'y a pas de... En fait, quand il y a une belle histoire d'amour sur la confiance et que ça roule bien, il n'y a pas d'histoire d'argent, quoi. Enfin, c'est... Mais peut-être c'est lié aussi à nos rapports respectifs à l'argent, dans le sens où c'est pas une valeur dans notre famille en réalité.
Merci
dans
beaucoup.
Une famille qui n'a pas de fortune ni de grande misère, hein. On est vraiment sur des classes intermédiaires.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Cécile. Alors ça fait du bien d'entendre quand même Jeanne Lazarus, par exemple, je vous voyais sourire, que parfois ça se passe de manière fluide. C'est ce que nous raconte Cécile, mais elle a raison. Le rapport à l'argent de départ, en gros, s'il est sain au départ, il sera sain à l'arrivée, en gros.
En même temps, ce que dit Cécile, c'est que c'est une deuxième union et très souvent aussi l'expérience fait que on sait mieux quelles peuvent être les erreurs à ne pas faire. On sait aussi que dans les deuxièmes unions, surtout si on a déjà des enfants Monsieur. Et des engagements, en fait, on va moins avoir de comptes joints et on va plus savoir chacun gérer son argent aussi pour des raisons simplement juridiques, fiscales. C'est plus difficile de tout mettre ensemble. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans le témoignage de Cécile, c'est qu'elle dit c'est une histoire d'amour, donc on n'a pas de problème d'argent. Mmh. Et ça, c'est évidemment ce que toutes les histoires d'amour vous disent. Enfin, et par contre, on va dire maintenant on s'aime plus, donc on a des problèmes mmh. d'argent. Et la question, c'est que c'est deux enjeux qui sont pas tout à fait les mêmes, et que même si on s'aime, on est dans un monde monétarisé, donc dans lequel l'argent est complètement présent. Donc problème ou pas, l'argent doit à un moment donné faire partie des tâches, comme elle le dit très bien, c'est comme les tâches ménagères, ça fait partie des tâches qu'on a à faire quand on vit avec un appartement, un métier et des choses à payer tous les jours. Mmh.
Tiens, voilà ce message de Pierre sur l'appli de France Inter. 20 ans de concubinage, 20 ans de fusion totale de gains et de dépenses. Je gagne beaucoup plus, mais les gains de l'un s'expliquent souvent par la présence de l'autre. C'est beau, Pierre. Merci beaucoup. Et ma foi, et encore une fois, Héloïse Boll, c'est bien quand ça se passe bien et quand ça se passe normalement aussi. Ce que disent tous les gens qui nous appellent, ce qu'on voit ici dans les messages et ce qui viendra derrière, c'est qu'effectivement, on l'a un peu évoqué, moins il y a d'argent, mieux ça. Enfin, alors pas dans la pauvreté, parce que là ça devient effectivement très très compliqué quand il s'agit d'arriver à boucler les fins de mois, mais en gros dans une classe moyenne médiane, on va dire, c'est évidemment plus facile que lorsqu'il y a beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, en tout cas.
Ça peut être plus simple et en même temps, c'est ce que disait Jeanne tout à l'heure, on est tous obligés d'être un petit peu matérialistes. On a tous des fins de mois à boucler et des loyers à payer. Et finalement, les personnes qui peuvent se dispenser de faire les comptes ou d'en faire un sujet entre elles sont probablement des personnes qui sont très à l'aise et tant mieux pour elles. Mais je pense qu'elles ne sont pas si nombreuses.
Vous en avez écrit 300 pages, donc en effet, ils sont pas si nombreux que ça. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir.
On vous écoute Jean-Yves, allez-y.
Oui, d'abord je voulais vous dire que j'aimais bien vos émissions en général.
Ah.
Mais j'ai un reproche à vous faire.
Ah, j'en étais sûr.
France passe de plus en plus de pubs. Et ça, c'est un problème. Faudrait pas que ça continue à remonter comme ça. On va RTL ou les autres. Quoi.
Le
voilà.
Message est passé, bon, Jean-Yves. Merci beaucoup. Faite. Allez-y. Vous savez, la pub, c'est de l'argent aussi. Enfin, bref.
Oui, bien sûr. Mais dans c'est quand même un lieu d'État. Alors,
allez,
pas.
Allez-y.
Moi, je voulais dire que avoir un écart d'argent entre l'homme et la femme, c'est pas un problème si celui qui gagne le plus d'argent, il est pas tout le temps en train de dire à l'autre, c'est grâce à moi qu'on a une bagnole, c'est grâce à moi qu'on part en vacances, c'est grâce à moi qu'on a un plus bel appart, parce qu'autrement, ça ne peut pas marcher.
Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé chez vous, les frictions ou pas?
Ça s'est passé vraiment bien, okay. Parce que pendant 2 ans, j'ai eu un problème dans ma carrière, j'ai pratiquement pas gagné d'argent, ma compagne a assumé sans rien dire, et jamais une seule fois elle m'a reproché, tu gagnes pas de sous, t'es un bon à rien, ça peut pas aller. Pendant 2 ans, c'est elle qui a assumé le couvert et tout. Et maintenant j'ai trouvé une situation, ça va, on gagne pratiquement pareil. Mais j'avoue que si en permanence elle m'avait fait des reproches, je pense que notre couple serait parti en live, quoi.
Merci beaucoup Jean-Yves.
Voilà.
Très bel accent grenoblois qui est le vôtre, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, peut-être Héloïse Boll, sur la relation que chacun peut avoir à l'argent. Quand on partage, on dit pas qui a acheté quoi, ou en tout cas, on dit pas que c'est grâce à moi ou pas. Est-ce que c'est compliqué de passer là-dessus, en fait, d'oublier le fait qu'il y a un salaire qui est nettement supérieur à l'autre, comme le racontait Jean-Yves?
Je suis un peu déprise au dépourvu par votre question.
Non, je vous en prie.
Est-ce que on le sait quand même en général. Alors il y a des situations où l'autre ne sait pas combien gagne son conjoint, mais en général on sait qu'il y a un déséquilibre et c'est un déséquilibre qui est souvent un petit peu malgré tout compensé par d'autres choses. Enfin, je vais donner un exemple très schématique et très classique. Monsieur gagne 2 fois plus que madame, mais madame consacre un peu plus de temps à l'éducation des enfants ou à l'entretien de la maison, finalement, il y a une compensation un petit peu naturelle qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est agréable à vivre et facile.
Le sens de ma question, qui était effectivement très peu clair, c'était de savoir si effectivement, au bout d'un moment, on finit par faire remarquer à l'autre, voilà ce qui vient de moi et voilà ce qui vient de toi. Donc, on s'aime, c'est sûr, mais enfin, voilà le déséquilibre, quoi.
Je pense que si on en est là sur la gestion du quotidien, c'est un petit peu compliqué. Mais après tout, pourquoi pas ? C'est quand même une remise en cause du système qu'on vit au quotidien. Et si vraiment ça pose un problème, finalement, il vaut peut-être mieux en parler.
Jeanne Lazarus, dans la deuxième partie de la question de Jean-Yves, il y a le moment de l'accident de la vie où il y a 2 ans de chômage, par exemple. Un cap qui est particulièrement compliqué à passer, j'imagine, de ce point de vue-là, puisqu'il n'y en a plus qu'un qui porte le reste de la famille sur le dos.
Oui, alors là, c'est pas forcément une question de couple, c'est une question générale de niveau de vie qui doit être changé et qui, effectivement, fait que des déséquilibres qui pouvaient être présents, ou l'équilibre qu'on avait fabriqué qui permettait de ne pas parler d'argent, risque d'être ébranlé, sauf si le salaire qui reste peut compenser. Mais ce qui est souvent très compliqué, c'est de mettre en équivalence de l'argent gagné qu'on peut très facilement comptabiliser et le temps passé auprès des enfants. Ou tout à l'heure, le témoignage qui disait le gain que j'ai, c'est grâce à ma compagne qui me soutient. C'est relativement rare, finalement, d'avoir cette idée-là. Et très souvent, on a aussi un peu le sentiment que l'argent qu'on a gagné et qui arrive sur notre compte à nous, il nous appartient plus. Et quand des conflits arrivent, l'idée qu'il faut partager cet argent avec la personne avec qui on vit peut être compliquée. C'est encore plus compliqué quand on est séparé et qu'on doit payer une pension alimentaire, par exemple, et que là, on est sans cesse en train de se demander au nom de quoi, en échange de quoi. Quand on est dans une relation stable et apaisée, on ne se pose pas sans cesse cette question de est-ce que nos contributions sont égales, la mienne financière, la sienne, autrement. Mais quand on commence à se poser ce genre de questions, en fait, c'est déjà qu'il y a sans doute un peu de difficulté, mais c'est aussi une pente très dangereuse parce qu'on se met du coup à tout comptabiliser avec des comptabilités qui sont très personnelles, puisque il y a que l'argent qu'on peut comptabiliser, mais il y a tellement d'autres choses qu'on échange dans un couple que ça devient extrêmement compliqué. Potentiellement, on peut aller très 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 loin.
Elisabeth, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, je Elisabeth. Sais pas si vous m'entendez. Mais je vous entends très bien, allez-y.
D'accord, bonsoir à toute l'équipe. Moi, je rejoins un petit peu Cécile dans son témoignage, dans la mesure où nous avons 2 comptes séparés, 2 professions bien séparées. Et en fait, on a toujours pris nos décisions ensemble et on a toujours fait 50-50. Et on se retrouve en général tous les 3 mois autour de la table, chacun avec ses comptes, et on met en commun. On dit voilà, moi j'ai dépensé ça pour le compte, pour le couple, je veux dire. Et en fonction de ça, à la fin, on réajuste et on s'aperçoit que globalement, les choses sont assez équilibrées. Mais je pense que c'est aussi ne pas avoir peur de regarder la réalité en face, de pouvoir se mettre à table. Et ça permet de... Et je pense que c'est un ensemble de choses. On accepte de regarder les problèmes peut-être différemment.
C'est-à-dire, Elisabeth ?
Je pense que c'est une façon de ne pas se voiler la face, d'accepter de regarder les comptes, les papiers. Peut-être que parfois, oui, moi j'ai dépensé plus que toi, etc. Mais globalement, c'est accepter de voir une certaine réalité en face et ne pas en avoir peur et prendre les bonnes décisions et mettre les choses en commun. Et au moins, les choses sont claires. Et je pense que c'est très important que les choses soient claires.
Merci beaucoup Elisabeth et Louise Boll, c'est ce qu'on disait également avec notre première auditrice Audrey. Effectivement, quand on arrive à mettre les choses à plat sur la table et que ça pose de problème à personne, évidemment que ça se passe nettement mieux.
Alors ça se passe plutôt bien. Il y a des situations dans lesquelles les couples quand même se font un petit peu... pas avoir, mais se font piéger parce que finalement ils ont un arrangement entre eux qui est le leur, qui est de dire par exemple on fait plutôt compte séparé, on a un petit compte commun pour la maison, etc. Tu me prêtes de l'argent, je te rembourse, ou j'épargne sur mon compte avec mon salaire, donc c'est mon argent, etc. Et puis de temps en temps vous avez un couple qui est marié depuis 10 ans et qui se rend compte qu'en fait toute cette séparation de comptes et ces comptes méticuleux qu'ils ont fait entre eux pour se rembourser, pour pas avoir de dettes l'un vis-à-vis de l'autre, sont totalement vains parce que ils sont mariés en communauté de biens sous le régime légal et qu'ils n'ont pas du tout compris, qu'on leur a jamais expliqué que finalement tout ce qu'ils avaient fait depuis la date de leur mariage était strictement commun. Donc, se mettre sur un coin de table et réfléchir à ça, au compte, et trouver un arrangement, c'est très bien. Encore faut-il trouver un arrangement qui est adapté à son régime matrimonial ou à son pax ou à son union libre.
Alors bon, là on est dans la gestion du quotidien, cela dit, mais vous avez raison, effectivement, à un moment quand on est suivant les contrats qu'on a passés lorsqu'on est marié, c'est une question pour vous que celle de Maxime. Le prélèvement à la source remet sur un pied d'égalité, cela permet-il au couple de faire un point sur le sujet ou pas?
Alors il y a eu quelques discussions saignantes depuis septembre et ce moment où il a fallu remplir, en fait, choisir entre un taux qui est un taux global pour le couple et puis choisir ou des taux qui sont des taux individualisés pour l'un et l'autre des membres du couple. Donc je vous donne un exemple, vous avez le contribuable 1 qui gagne 5000 euros, le contribuable 2 qui gagne 1000 euros, et bien on leur propose d'avoir un taux qui est complètement différent, d'avoir chacun son taux et un taux qui est conforme à leur salaire à chacun. Il y a des gens là qui se sont dit, mais mince, ça fait 10 ans ou 15 ans que je paye un taux moyen et que je participe à un taux moyen, alors qu'en fait, je ne suis même pas imposable. C'est un peu compliqué. À l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on sache que leur femme gagne beaucoup plus qu'eux et donc qui sont très embêtés avec ce taux d'imposition commun parce que ça en dit trop à leur employeur sur leur situation familiale. C'est un vrai sujet et il y a eu quelques discussions assez costauds.
Jeanne Lazarus, est-ce qu'il y a des modes ou des âges, c'est-à-dire que nos parents avaient instinctivement un conjoint quoi qu'il arrive, après beaucoup moins, comment on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des moments comme ça dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est un jeune couple, le conjoint va de pair ou pas vraiment, en fait, contrairement à nos parents?
Alors, c'est vraiment lié à l'évolution des couples, l'augmentation très nette des divorces depuis les années 60 et le fait qu'on se mette en couple plus tard. Et aussi le fait que les femmes travaillent. Donc c'est toute une série d'évolutions démographiques et économiques qui font que on est bien plus autonome dans un couple, avec aussi en tête que le couple n'est pas forcément là pour toujours. Et donc, on voit très bien que plus les générations avancent, et plus on a une méfiance à l'idée de mettre tout ensemble. Donc, c'est aussi une vision du couple. Le couple est un lieu où on doit s'épanouir et qui est fait pour que chacun des deux s'épanouisse. Donc on n'est pas là pour créer une institution, on va s'obliger à jouer des rôles, mais on va rester dans le couple tant qu'on est bien.
Ni s'obliger à vivre ensemble toute une vie d'ailleurs, comme peut-être nos parents et nos grands-parents l'ont fait.
Et donc ça se voit aussi sur les comptes. En revanche, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on est plus jeune, on met plus de temps, évidemment, qu'avant à mettre son argent en commun. En revanche, quand on va rentrer dans le mariage, l'achat en commun, les enfants, là, progressivement, on va avoir l'argent du mariage. C'est-à-dire qu'il va y avoir son argent à soi, et puis l'argent qu'on partage, l'argent pour les enfants, et on va marquer autrement l'argent. Et on va aussi, au bout d'un moment, considérer que peut-être que oui, on va rester finalement ensemble jusqu'au bout, et donc on va se détendre, je dirais, progressivement sur ces questions-là.
Bastien, c'est vous le dernier, pardon. Bastien, bonsoir.
Moi le dernier. Bonsoir.
On vous écoute, Bastien.
Merci beaucoup, Fabienne Sentès, pour tout ce que vous faites à la radio et aux médias. Vous faites du bien. Voilà, donc déjà, je voulais vous dire ça.
Ma mère aussi vous embrasse, du coup, Bastien. Merci beaucoup.
simplement dire que nous, on a commencé avec un conjoint déséquilibré en ma faveur au départ, parce que je touchais moins d'argent. Et puis, on n'est jamais revenu dessus. Et merci de faire cette émission, parce qu'on est dans le tournant de la vie où, aujourd'hui, on va pouvoir changer les choses. Mais la tête dans le guidon, on n'avait pas le temps et on revenait pas sur cette différence de départ. Mmh. Et c'est vrai que moi, mon épouse, elle a aucun souci là-dessus. Elle m'a jamais posé de questions. Enfin, on n'a jamais fait de petits comptes apothicaires. C'est ça qui est bien. Et ce qui fait que la vie est belle. Mais c'est vrai qu'il y a une petite dette qui se crée, moi, dans ma tête, au fil du temps. Parce que je sais que ce truc, on l'a jamais revu. Mmh. Et que, à un moment donné, il faut le revoir. Et ce que vous avez dit, c'est très intéressant parce qu'il faut vraiment le revoir. Et je vous recommande, et je recommande à tout le monde les travaux de Nicole Prieur. L'argent, c'est bien au-delà de juste de l'argent, en fait. C'est quelque chose de tellement... Ça dessine tellement de choses derrière que c'est beaucoup de choses derrière tout ça.
Merci beaucoup. Merci, Bastien. C'est ce que vous disiez au début, Héloïse Boll. Parfois, il faut revoir le contrat. Y compris s'il est juste fait sur la table de la cuisine, en fait, quand on discute entre couples.
Oui, et d'autant plus qu'il y a un changement de situation, en fait.
Je vais vous laisser sur deux témoignages que je laisse à votre sagacité, tout simplement. Le premier dit ceci: en conjoint depuis notre mariage pendant 30 ans, j'ai constaté que mon ex-mari a commencé à s'intéresser à notre compte et en critiquer ma gestion au moment où il a commencé à prendre des maîtresses. Je pose ça là. Mais je laisse aussi ceci: dans les années 60, ma mère, enseignante, n'avait pas le droit d'ouvrir un compte et de gérer son salaire. Elle dépendait de mon père, de son père d'abord et puis de son mari. On revient de loin et c'est bien de le rappeler aussi. Merci beaucoup, merci à tous pour vos nombreux appels et portez-vous bien.